Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique européenne, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission d'Européens. Cette émission vous est proposée par la Maison de l'Europe et des Européens de l'An, labellisée Europe Direct en genevois français. Et moi, c'est Timur, son coordinateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Insaf et Lucina, stagiaires à la Maison de l'Europe, dans cette émission. Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Nous allons commencer par aborder les actualités européennes. Au cours de ce mois de juin, un tournant va s'opérer dans la politique de migration d'asile de l'Union européenne. En effet, les 9 règlements de l'unique directive du pacte sur la migration et de l'asile vont entrer en vigueur à partir du 12 juin 2026. Le pacte a fait l'objet d'un long cheminement législatif permettant de construire une réglementation complète encadrant toutes les étapes de procédure auxquelles fait face les demandeurs d'asile. C'est un ensemble de nouvelles règles régissant la gestion de migration et établissant un régime d'asile commun à l'échelle de l'Union européenne, afin d'améliorer l'efficacité des procédures tout en restant fondé sur les valeurs européennes et le respect des droits fondamentaux. Les principaux objectifs de ce pacte sont de renforcer la lutte contre l'immigration irrégulière, accélérer le traitement de demandes d'asile et renforcer la solidarité et la responsabilité des États membres pour éviter la concentration des demandeurs d'asile dans certains pays. Il permet de remédier à de nombreuses failles dans la politique d'asile européenne et d'organiser la gestion de l'asile en cas de situation de crise, afin que les réfugiés bénéficient de conditions respectant les droits fondamentaux.
Nous sommes en plein mois des fiertés, célébré chaque année en juin. Ce mois permet de mettre en lumière les droits des personnes LGBTQIA+. Il trouve son origine dans les émeutes de Stonewall à New York en juin 1969, déclenchées après une descente de police dans un bar gay, provoquant plusieurs jours de révolte contre les violences et discriminations envers la communauté LGBT. Juin est devenu un moment symbolique pour revendiquer l'égalité, la dignité et la sécurité des personnes LGBT+, tout en célébrant leur diversité et leur visibilité. C'est un moment de célébration collective et d'engagement citoyen pour les droits humains et la diversité, permettant à tout le monde de participer. Ce mois est rythmé par des marches des fiertés, des événements culturels, des conférences et des activités associatives pour sensibiliser le public aux droits LGBT+, et lutter contre les discriminations. Dans ce contexte, rappelons que le mois dernier, l'UE a décidé de ne pas interdire les thérapies de conversion qui assimilent l'homosexualité à une maladie et visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne à travers des stages, des séances d'exorcisme ou d'électrochoc. Les thérapies de conversion LGBTQI+, s'apparentent à de la torture, a déclaré la commissaire européenne à l'égalité Hajja Labib. L'an dernier, plus d'un million de citoyens réclamaient le bannissement de ces pratiques à travers une initiative citoyenne européenne, dont on va vous parler juste après. Cependant, en raison d'une absence d'unanimité parmi les États membres, la Commission européenne n'a pas les compétences pour interdire efficacement ces thérapies de conversion. Ainsi, elle a présenté une recommandation non contraignante, et comme l'a déclaré la commissaire Hajja Labib, la Commission envoie un message très clair et sans ambiguïté à tous les États membres de l'Union: interdisez les pratiques de conversion dès maintenant. Les États membres ont un rôle essentiel à jouer dans cette question, car cette question relève en grande partie de leur responsabilité. Et en effet, à ce jour, seulement 8 États européens ont mis en place des interdictions avec des sanctions financières et des peines d'emprisonnement plus ou moins lourdes.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe.
Bonjour, je suis Insaf et aujourd'hui je vais vous expliquer l'initiative citoyenne européenne, une pétition rassemblant les citoyens à l'échelle européenne comme pour l'interdiction des thérapies de conversion. Introduite pour la première fois par le traité de Lisbonne en 2007, l'initiative citoyenne européenne, dite ICE, permet aux citoyens européens d'appeler la Commission européenne à proposer de nouvelles législations sur un sujet précis, afin de renforcer la participation citoyenne et de réduire le déficit démocratique au sein de l'Union européenne. Mais pour cela, différentes étapes et règles sont à respecter. Alors comment cela fonctionne? Tout d'abord, il y a la création d'un comité de citoyens qui doit se composer d'au moins 7 citoyens de 7 États membres différents en âge de voter. Ensuite, il faut fournir des informations telles que la raison de cette initiative et le mode de financement. Dans un délai de 2 mois, la Commission vérifie que l'initiative remplit bien les critères d'éligibilité pour répondre à la demande d'enregistrement. En cas de non-respect des critères ou valeurs de l'UE, la Commission peut rejeter l'initiative. Puis, dans un délai de 6 mois, suivant cette acceptation d'enregistrement, les organisateurs de l'ICE peuvent commencer la collecte de soutien à leur initiative, qui dure 1 an une fois ouverte. Les déclarations de soutien peuvent être faites sur papier ou par voie électronique. Pour pouvoir soutenir une ICE, 2 conditions doivent être remplies. Être ressortissant d'un État de l'UE et avoir l'âge légal requis dans son pays de résidence pour voter aux élections. Mais les États membres sont autorisés à fixer l'âge minimum pour signer une ICE à 16 ans s'ils le souhaitent. L'initiative doit recueillir 1 million de signatures en 12 mois, provenant d'au moins 7 États membres différents. Pour qu'un pays soit comptabilisé, il faut qu'un nombre minimum de ses ressortissants ait signé l'initiative. Ce nombre est calculé en fonction de la population de l'État, de manière proportionnelle et dégressive. Si l'initiative parvient à récolter un nombre suffisant de signatures dans le délai d'un an, le comité de citoyens doit effectuer une procédure de vérification des soutiens auprès des autorités compétentes de chaque pays de l'UE. Les autorités nationales disposent alors de 3 mois pour certifier toutes les déclarations de soutien. En France, il s'agit du ministère de l'Intérieur, traditionnellement chargé de l'organisation des élections. Une fois la vérification effectuée, le comité des citoyens reçoit un certificat délivré par chaque autorité nationale concernant le nombre de déclarations de soutien. Il doit présenter ses certificats et d'autres informations sur les financements reçus dans le cadre de cette initiative à la Commission européenne. Après réception de l'initiative et des documents de vérification requis, la Commission doit publier immédiatement l'ICE dans un registre et rencontrer les organisateurs pour qu'ils exposent leurs requêtes en détail. Le comité des citoyens a ensuite la possibilité de présenter l'initiative lors d'une audition publique au Parlement européen, organisée par la commission compétente sur l'objet de l'initiative. Le Parlement peut, par ailleurs, décider d'organiser un débat en séance publique sur le sujet et d'adopter une résolution afin d'évaluer le soutien politique apporté à cette initiative. En résumé, l'ICE est un instrument de démocratie participative qui permet aux citoyens européens de proposer des changements législatifs concrets, à condition de mobiliser un soutien significatif à travers l'Union européenne. Depuis son lancement, 129 initiatives ont été enregistrées, couvrant des domaines variés comme l'environnement, la santé, le bien-être animal, la lutte contre la discrimination et beaucoup d'autres.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup et aujourd'hui nous allons écouter l'échange entre les SAF et Lucina en stage à la Maison de l'Europe et des Européens de l'An.
Merci Timour, je te reprends le micro. Moi c'est INSAF, stagiaire à la Maison de l'Europe et Lucina, je te laisse te présenter.
Bonjour, je m'appelle Lucina et je suis stagiaire depuis 1 mois à la Maison de l'Europe et des Européens. Aujourd'hui je vais vous expliquer mon parcours, comment je suis arrivée à la Maison de l'Europe et pourquoi je pense que l'Union Européenne est un sujet passionnant. Donc je suis étudiante en droit et l'Union européenne c'est un sujet qui m'a interpellée assez rapidement pendant ma licence quand j'ai eu la chance d'assister à des cours de droit européen. J'ai trouvé cette matière particulièrement intéressante et c'est pour cette raison que j'ai décidé de poursuivre dans cette voie avec d'abord un Erasmus en Irlande et ensuite un master en droit européen.
Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience Erasmus en Irlande ?
Donc j'ai eu la chance de faire un Erasmus pendant le dernier semestre de ma licence à Maynooth en Irlande. C'était une expérience très enrichissante qui m'a permis de découvrir la culture du pays, de faire de belles rencontres, mais surtout de prendre conscience de ma citoyenneté européenne. Parce qu'en effet, avec le programme Erasmus, on a des avantages en tant qu'Européen dans un autre pays de l'Union. Là-bas, du coup, j'ai suivi également des cours de droit européen qui m'ont permis de mettre en perspective ce que j'avais déjà appris en France, mais dans un autre pays et dans une autre langue. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience des enjeux de l'Union européenne et de l'identité européenne qui permet d'avoir des points communs et de compréhension avec des personnes d'un autre pays qui ont une autre culture et qui parlent une autre langue. Donc cette prise de conscience n'a fait que renforcer ma volonté de faire du droit européen et c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans cette matière en intégrant le master droit européen des transitions à Grenoble.
Qu'est-ce que ce master t'a appris et apporté ?
Alors, dans ce master, j'ai étudié une grande diversité de matières qui composent le droit de l'Union européenne. On avait par exemple le droit de l'environnement ou le droit numérique, qui sont des grands enjeux actuels pour l'Union européenne. Mais j'ai également étudié le droit d'asile et migration, la sécurité et la défense, les valeurs européennes et les droits fondamentaux, le contentieux européen et plus généralement les différentes politiques de l'Union. J'ai donc acquis des connaissances générales sur le fonctionnement et les enjeux de l'Union européenne que je peux aujourd'hui utiliser mettre à profit au cours de mon stage.
Pourquoi as-tu choisi la Maison de l'Europe et des Européens pour faire ton stage ?
Donc, j'ai la chance de réaliser mon stage aux côtés de Timur, dans le cadre de la validation de mon master. J'ai choisi de me tourner vers la Maison de l'Europe parce que je trouvais que c'était une bonne manière d'utiliser mes compétences et mes connaissances en droit de l'Union européenne de manière concrète. En effet, je trouve que le travail de la Maison de l'Europe pour rendre accessible l'Union européenne aux citoyens, elle me permet d'appliquer en pratique ce que j'ai appris de manière théorique pendant 2 ans. Et je trouve ça particulièrement intéressant d'expliquer et de faire comprendre aux gens qu'est-ce que l'Union européenne et comment elle impacte leur quotidien, parce que ça donne aussi une dimension plus réelle et moins technique à mes compétences. J'aime beaucoup travailler au sein de cette association, ça me permet de faire de belles rencontres et de vivre l'Europe au quotidien et d'encore plus près. Parce qu'en effet, je trouve que l'Europe, c'est un sujet passionnant qui fait vivre des valeurs humaines qui me touchent particulièrement. Par exemple, la solidarité, la liberté, l'égalité ou la dignité humaine. Je trouve que l'Union européenne donne aussi naissance à des projets donnant de belles perspectives aux citoyens européens. On avait par exemple le programme Erasmus que j'ai cité plus tôt, qui est un exemple idéal pour illustrer les opportunités qu'offre l'Union européenne à ses citoyens. En effet, il permet aux étudiants de voyager et de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres langues, mais aussi d'autres personnes et d'autres façons de vivre. Et l'Union européenne, elle regorge d'une multitude d'autres projets dans une diversité de manières assez impressionnantes qui permettent d'améliorer le quotidien et l'avenir des Européens à travers de nombreuses politiques, ses institutions, ses organes, mais aussi grâce aux fonds européens qui permettent la mise en place de projets au plus près des citoyens directement dans les États membres.
Vous écoutez Radio B, la chronique de la Maison de l'Europe. Et maintenant, il est un petit temps pour vous partager notre actualité à la Maison de l'Europe.
Alors, prochainement, nous participerons au Festival des Cultures du Monde, organisé au Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse le 4 et 5 juillet de 10h à 18h. Ce festival, gratuit et ouvert à tout public, vous donnera accès à une trentaine de stands en plein air proposant de la vente d'artisanat, des boissons, des dégustations gourmandes et des activités pour découvrir de nombreuses cultures du monde et de l'Union européenne. Le week-end sera également rythmé par de nombreuses animations, dont des expos textiles du Laos et peintures du Rwanda, une tombola, un défilé de mode, la découverte de la médecine chinoise, un concert de musique bolivienne le vendredi soir et une petite fête de veillée avec des danses, de la musique, une buvette et une petite restauration le samedi soir. Vous êtes attendus nombreux pour célébrer des traditions authentiques, découvrir les cuisines du monde, faire de belles rencontres et surtout venir nous rencontrer puisque nous aurons un stand pendant les 2 jours du festival où nous proposerons différentes activités ludiques pour découvrir et comprendre l'Europe en vous amusant.
Et maintenant, on arrive à la fin de cette émission. Merci à mes super co-animatrices Lucina et Insaf et à vous, chers auditeurs. Je vous dis à très bientôt sur Européen et pendant nos événements à la Maison de l'Europe et des Européens.
Symbolic of their desire to solve their nation's problems jointly, they are seated side by side, together. Schumann is speaking. L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
Le marché commun du charbon et de l'acier devenait une réalité.
Vous écoutez la chronique Européen, une émission par mois pour décrypter l'Union européenne ensemble. Institutions, politiques, fonds européens et leur impact sur le quotidien. Tout ça avec l'association Maison de l'Europe et des Européens de l'An.